Alors, hier soir, il y a eu un vote très important auprès de l'Association des joueurs de la Ligue nationale de hockey qui a annoncé que son comité exécutif s'était prononcé en faveur du scénario proposé par les 31 gouverneurs de la Ligue nationale de hockey. Le scénario qui devait obtenir l'approbation d'au moins 18 des 31 membres. Ce sont donc 24 équipes, les 12 premières de chaque association, selon le pourcentage de points récoltés, là, qui participerait à un tournoi éliminatoire visant à donner la Coupe Stanley à l'équipe championne. Et le Canadien de Montréal serait en série. Ray Lalonde, bonjour Ray.
Bonjour Paul.
Ben oui, c'est une grosse nouvelle ça hier. Et les joueurs se sont montrés enthousiastes.
Oui, écoute, c'est une grosse nouvelle, tu l'as bien dit. C'est le comité Return to Play qui a présenté le projet jeudi, l'ont envoyé aux leaders de chaque équipe au niveau de l'Association des joueurs. Donc, c'était 31 membres. Ça n'a pas été aux joueurs encore. Il reste beaucoup de détails à négocier, mais c'est très positif. Parce qu'on va vouloir tenter de recréer un scénario qui nous permet de jouer quelques matchs pour se préparer à ce tournoi de série. Les Canadiens, en principe, Paul, affronteraient les Pingouins de Pittsburgh en première ronde.
Oui, ça, c'est une moins bonne nouvelle.
Ben, moins bonne nouvelle, mais tu sais, Paul, tu le sais, aussi bien que moi, là, quand tu as un gardien de la trempe de Carey Price, il peut devenir très bon soudainement, il peut voler des matchs, ça peut être dangereux pour une équipe favorite.
C'est vrai, c'est
Et il y a une chose qui est claire, c'est que je veux juste rappeler aux auditeurs, là, c'est pas un vote pour retourner en action puis reprendre. C'est un vote sur le format d'un retour de série.
Oui.
Donc, les joueurs doivent encore se prononcer à savoir est-ce qu'on relance les activités.
Oui.
Il y a un peu de confusion là-dedans, là, mais c'était uniquement sur le modèle de 24 équipes.
OK, d'accord. Mais il va falloir aussi régler d'énormes problèmes de logistique, notamment en ce qui a trait à la fin de la saison ou non, ou si on passe directement au tournoi éliminatoire, avec potentiellement une finale quelque part en octobre. Et il va bien falloir aussi déterminer à quels endroits, au pluriel, on va disputer tous ces matchs.
Oui. Alors, il y avait 8 à 9 villes qui étaient encore considérées candidates. On a vu cette semaine le premier ministre de l'Alberta déclarer qu'il n'y a pas un endroit plus sécuritaire actuellement en Amérique qu'à Edmonton, par exemple. Mais je pense que la Ligue nationale va se pencher sur 2 villes. Et on ne parle pas nécessairement de villes du sud, là, mais on parle de 2 villes qui seraient une pour l'est, une pour l'ouest, ce qu'on appelle en anglais un hub, une ville bulle, si on veut, qui accueillerait les 12 équipes d'un côté et les 12 équipes de l'autre côté. Mais Paul, il y a un enjeu important. On parle d'à peu près 1,2 milliard de dollars US qui restent sur la table pour cette année. NBC aux États-Unis paie très cher, Sportsnet, TVA Sport, RDS au Canada. C'est de l'argent que la Ligue veut récolter. C'est un produit qu'on parle, encore une fois, fait pour la télévision.
Mmh. Ouais,
alors, parce qu'il n'y aura pas de spectateurs. C'est purement de la logistique à chaque jour, tester, avoir des résultats. Il y a un coût énorme à ça aussi.
Alors, on verra bien dans quelle direction ça ira. Martin McGuire sera avec nous, d'ailleurs, pour en parler dans une heure. Faisons le tour maintenant des autres ligues. Semble-t-il que la NBA ferait son nid pour le basketball à Orlando, à Disney, c'est ça?
Au
complexe de Disney, c'est ça que je voulais dire.
Oui, oui. On parle encore de la possibilité que Vegas soit une des deux villes, mais Orlando est certainement une des villes qui va être choisie. La décision va se prendre d'ici le 1er juin. On est à peu près à une semaine, Paul, de cette décision-là, là, grosso modo. Puis Adam Silver penche, évidemment, en faveur d'une reprise. Les joueurs sont presque tous de retour dans leur ville ou dans les centres d'entraînement. Ça, c'est pas un petit signe. Tu sais, la Ligue nationale de hockey, les joueurs aux États-Unis, dans certaines villes, patinent et il y a des glaces. Au Canada, ce n'est pas le cas encore, à part dans la région d'Ottawa. Mais aux États-Unis, les centres de la NBA sont ouverts depuis 10 jours, Paul, puis les joueurs s'entraînent.
Bon.
Alors, graduellement, on se rapproche de ce côté-là. Et c'est juste que lui, il s'était donné jusqu'au 1er juin.
Là où aussi il y a urgence, c'est le baseball.
Oui. Mais du côté du baseball, ce qui est très dangereux, c'est qu'eux ont une saison complète à disputer, Paul. Ils n'ont même pas commencé la saison. Alors, il y a eu, la semaine passée, des difficultés au niveau des négociations par rapport à l'entente financière. Le partage des revenus 50-50. Mais il y a aussi le défi du baseball qui est plus grand, c'est-à-dire de voyager. Voyager constamment. Parce que tu ne peux pas jouer 82 matchs, c'est-à-dire la proposition la plus récente, d'une moitié de saison de baseball dans deux seules villes. Ça ne marche pas. Alors, ça prend plus de villes. Donc, ça prend possiblement les villes mêmes des équipes. Donc, ça veut dire beaucoup de voyages. Mmh. Et cet aspect-là est loin d'être simple. Mmh. Parce que c'est une chose d'emmener 12 équipes dans une ville comme à Orlando ou à Vegas pour le hockey ou le basketball, ouais. Peu importe. C'en est une autre de faire voyager les équipes entre Milwaukee, Pittsburgh, San Diego, San Francisco, New York et ainsi de suite. Ouais. Très compliqué en date d'aujourd'hui.
Alors, on va terminer pour aujourd'hui parce qu'on va se reparler, bien sûr, demain, Ray, de l'argent. L'argent est en jeu non seulement pour la Ligue nationale de hockey, on aura l'occasion de se reparler de la Ligue canadienne de football parce que cette Ligue-là ne roule pas sur l'or, comme on dit. Et bien entendu, on s'en est souvent parlé, le sport universitaire américain qui génère des milliards de dollars.
Oui, bien l'enjeu uniquement pour la saison de football de cette année du football NCAA, c'est 4 milliards de dollars. Et Paul, ce qui m'a étonné cette semaine, c'est que l'Université Notre-Dame, la célèbre université à South Bend en Indiana, a déclaré qu'eux, ils allaient commencer, écoute ça, la session d'automne, le 10 août, et terminer au Thanksgiving américain. Parce qu'ils ne veulent pas que les étudiants rentrent au Thanksgiving pour l'action de grâce américaine dans leur famille, dans leur ville, et reviennent sur les campus, possiblement contaminés.
Mais c'est brillant, mais, ça c'est bien.
Effectivement, très brillant. Mais le 10 août, c'est pas très loin. Et ce que ça implique, c'est que dans certains cas, il y a des universités qui sont prêtes à accueillir les étudiants, puis il y en a d'autres cas qui ne vont faire que des cours en ligne.
C'est vrai.
Ça complique les choses pour les programmes de sport.
Ouais.
Et la machine, la locomotive derrière le sport américain, au niveau universitaire, c'est le football.
Ouais.
Alors, il y a des équipes prêtes à jouer, puis il y a des équipes qui ne pourront même pas reprendre parce que les universités n'ouvriront pas.
Est-ce que tu crois qu'on pourrait tenir la fameuse saison des bowls dans le temps des fêtes?
Bien, on peut seulement la tenir, Paul, si on a suffisamment d'équipes qui auront eu l'occasion de jouer durant la saison. Il y a un groupe aux États-Unis qui s'appelle le Power Five, c'est-à-dire les 5 plus grandes conférences aux États-Unis pour le football. Et on dit là actuellement que s'il n'y a pas de football cet automne, chaque équipe dans chaque conférence va perdre entre 65 et 75 millions de dollars.
Aïe, aïe, aïe.
Et ça, ces revenus-là, je répète, Paul, sont vraiment importants pour la survie des autres sports.
Mais c'est parce qu'ils réinjectent de l'argent également dans les programmes académiques.
Absolument.
Ben oui.
Dans les infrastructures,
oui.
Dans la construction sur les campus, c'est vraiment important. Alors, pour terminer, ce que je veux dire, c'est qu'on s'approche quand même d'une réouverture des centres d'entraînement pour permettre aux athlètes de football, début juin, de retourner sur les campus.
Ah.
Ça, c'est exceptionnel.
Ben oui.
De les laisser entrer sans qu'il y ait d'étudiants et d'autres cours, c'est exceptionnel. Mais on s'en va dans la bonne direction.
Alors,
mais c'est très fragile.
Alors, Ray, moi qui voulais amener Thérèse Parisien dans le grand stade d'Ohio State, pour le match contre Michigan avec 105 000 spectateurs, on est mieux de remettre ça l'année prochaine?
Ben, Paul, le directeur des sports de l'Université d'Ohio State a déclaré cette semaine qu'il s'attend, lui, à avoir des matchs avec des foules d'à peu près 20 à 30 000 personnes.
Waouh,
wow, la place. C'est différent du 105 000 habituel.
Thérèse, vous vous rappelez du Ohio Stadium?
Eh oui, quel bonheur.
Quel bonheur.
Ça, c'était impressionnant.
Le bonheur, c'est d'accueillir Michigan avec 106 000 personnes. C'est ça l'affaire.
Ouais, mais avec 30 000...
Paul, moi, je veux vous inciter à faire un détour un de ces jours vers University Park.
Ah, lui, c'est toujours Penn State, lui.
Ben oui, parce que vous ne l'avez pas vu encore, le magnifique Beaver Stadium.
Ben oui, mais c'est parce que c'est ton allemand mater.
Ben oui, mais tu peux jouer contre Michigan et Ohio State aussi, Paul. Et tu vas avoir autant de monde qu'à Ohio State.
C'est vrai.
J'encourage.
Ben oui, à part ça, les Nittany Lions de Penn State, quelle histoire. Ray, demain, je veux que tu me fasses une présentation de la situation dans la Ligue canadienne de football. D'accord?
Avec plaisir, Paul.
Merci. Parce que là, bon, vas-tu avoir une saison? Ça va-tu commencer en septembre? La Coupe Grey va-tu venir à Montréal? Donc, on a beaucoup de questions à se poser également pour la CFL.